Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court, tous les soirs, des conversations d'une heure avec des artistes, ce soir avec le réalisateur Diego Governatori.
Un tango, une danse, un baiser.
Et du coup, t'as pépé, t'es pépé.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parler temps qui court.
Marie Richeux avec Diego Governatori.
C'est un pèlerinage, un chemin de parole, un flot, un duel, un duo amical, un rêve peut-être et ses diverses interprétations. C'est un jeune homme, comédien, diagnostiqué autiste il y a quelques années, qui a entrepris une très longue et astringente plongée en soi. C'est son ami, cinéaste, qui voit dans l'espace du film la possibilité d'inscrire quelque chose de cette connaissance. Diego Governatori, vous filmez Aurélien Deschamps dans les montagnes de Pampelune, d'abord loin de la foule, pour essayer d'entendre ce qu'il y a à dire de sa vie, à lui, à vous et aux autres. Et puis vous descendez dans l'arène, au sens propre comme au sens figuré, filmez Aurélien dans la foule avinée de la feria et faites de lui le temps d'un songe, le taureau qui excite et effraie. Un des derniers plans, le film cette fois en Don Quichotte, toute petite silhouette noire devant d'immenses éoliennes blanches, tournant en rond suivant l'ombre portée au sol. Quelle folie est le titre de votre nouveau film. Il sort en salle le 9 octobre prochain et donnera lieu à plusieurs rencontres, notamment à Paris, à Marseille, à Pantin, à Fontenay-sous-Bois. Il est déjà projeté au cinéma Le Méliès de Montreuil. Bonsoir à vous et bienvenue.
Bonsoir, merci.
Je commence par ce mot-là, pèlerinage, parce qu'il est prononcé dans les premières scènes du film où nous suivons avec vous Aurélien Deschamps, nous voyant dans un premier temps que sa chemise noire et sa nuque libérée, si bien que c'est à la fois quelqu'un qu'on suit quand on randonne pour un pèlerinage ou pour autre chose, mais peut-être aussi, on y viendra dans la métaphore que vous filmez, un animal traqué avec cette nuque si fragile. Le pèlerinage, c'est un mot que vous avez utilisé tous les deux lorsque vous avez décidé de la forme que prendrait cette aventure?
Alors vous mettez les pieds dans le plat parce que c'est un mot qui m'a échappé et que j'ai décidé de garder évidemment au montage. Mais non, c'est vraiment quelque chose qui a été peut-être présent en moi, mais en tout cas très loin de nos conversations que j'ai eues avec Aurélien. Parce qu'il me semblait à la fois un mot extrêmement chargé et peut-être concernant plus mon ambition à moi que, disons, son exercice à lui. Donc il s'agissait pas de lui proposer d'aller faire un pèlerinage. Par contre, de moi à moi-même, c'était déjà une question que j'avais interrogée et qui, effectivement, dans cette espèce d'inconscient surgissant au moment du tournage, au moment où il est prononcé, c'est un moment de grande tension et il me revient. Et du coup, beaucoup de gens, en fait, me pose cette question-là du pèlerinage, alors que pour moi, c'est un mot noyé dans le flot de tous les autres.
Mais si on l'entend, c'est qu'il ne doit pas être si noyé que ça.
Et voilà, donc forcément signifiant à cet endroit-là. Alors effectivement, donc il m'a échappé, mais pourquoi l'avoir gardé? Parce qu'évidemment, il résonne aussi sur, on va dire, tout l'enjeu cathartique hein, qu'il y a dans le film, que ce soit évidemment pour Aurélien, mais aussi pour moi. Et je pense que, évidemment, engager la parole en même temps que la marche est un exercice que je fais, que je pratique beaucoup. J'ai l'impression même que la marche active la pensée et que la pensée active aussi la marche, qu'on est toujours en mouvement quand on pense. Et pour quoi alors? Pour chercher, pour trouver, pour rencontrer, pour se souvenir. Certains vont évoquer le sacré, d'autres au contraire quelque chose d'extrêmement prosaïque, mais qui permettrait de faire ressortir des choses. Je pense que c'est un mélange de tout ça. Et puis quand même pour l'anecdote, à Pampelune, en tout cas sur les chemins qu'on a arpentés, on croise le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Donc tout ça n'est au final pas si étrange.
Et puis on peut rajouter à ça que ça fait signe à votre cinéma quand même, Diego Governatori, et que c'est pas anodin, de même si ça vous échappe, d'entendre Pèlerinage, quand on sait que c'est quelque chose qui est au travail, la foi, la croyance, le rapport au sacré dans les films que vous faites.
Oui, absolument, mais j'inscrivais ce film, alors non pas dans une rupture, hein, mais dans une réinterrogation du processus à la fois d'écriture et aussi de l'ambition elle-même du film. Déjà, c'est un documentaire. C'est un documentaire sur un ami très proche. Et vous m'auriez dit il y a 10 ans que mon premier long métrage était un film sur Aurélien Deschamps. J'en n'en aurais pas cru. Justement, il y a 10 ans, j'étais dans les chemins d'un prêtre, puisque je fais écho à un film qu'on a réalisé avec mon frère. Qui suit le cheminement d'un séminariste avant son ordination. J'ai touché comme ça, effectivement, du doigt toutes ces questions-là. Mais elles sont tellement vertigineuses, hein, et tellement insaisissables, que je crois que ce film-là, je voulais reprendre en fait la main sur quelque chose de, au fond, de plus quotidien, pour pouvoir aussi faire en sorte que quelque chose de ma vie plus intime soit au travail, et de convoquer la parole d'Aurélien pour ce premier long, et en fait pour moi. Bien plus important que d'essayer de tutoyer les cieux, les étoiles et le sacré. Après, la dimension que prend le film et la façon dont on peut le penser et l'inscrire effectivement dans ce lien à la transcendance, c'est tout à fait possible.
Et on y reviendra évidemment, parce que Pamplune, taureau, corrida, mise à mort et ces questions de transcendance, elles sont reprises plus tard, mais le mot pèlerinage n'est plus jamais prononcé.
Moi, comment est-ce que j'avance ? J'avance en regardant, puisque j'ai un point d'aveuglement. Je regarde et j'ai reconnu ces blocages. Et je regarde et j'essaie d'apprendre de la façon dont que lui a eu de les dépasser. Et c'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que il y a un point d'aveuglement. Et c'est ça aussi, Diego, tu vois le truc. C'est qu'il va falloir, excuse-moi, je le dis, on est dans le flux. Il va falloir que tu comprennes le point où tu es aveugle et que tu... Il y a quelque chose que tu vois pas et il va falloir que tu devines ce qu'il y a derrière cet endroit caché à partir de comment ça réagit avec les autres côtés. Tu vas pouvoir déduire ce qu'il y a à l'endroit que tu ne peux voir en réfléchissant très fort. Enfin, réfléchissant, c'est plutôt ailleurs que ça va réfléchir pour toi, l'endroit que tu ne peux pas, auquel tu ne peux pas accéder. C'est hyper compliqué comme truc. Mais, et du coup, après, tu peux voir. Et ça réfère à ces questions autistiques, la théorie de l'esprit, etc. Il y a un handicap. Tu ne peux pas. Il y a quelque chose qui ne se représente pas, en fait. Et l'idée, c'est que il est quand même possible d'accéder à ces données, bien que nous n'ayons pas les senseurs et qu'on puisse pas normalement y accéder. En fait, c'est par, il faut trouver l'écho, trouver le reflet. En fait, on peut quand même voir. Bon, j'enchaîne, hein, je chemine vers l'humeur.
Ouais.
Hein, mais parce que c'est vrai que c'est hyper dur, je me rends compte, c'est le point de départ pour moi. Ça se prendra dans le flow, quoi, hein, mais...
Avant qu'on évoque tout de suite, Diego Governatori, la voix d'Aurélien Deschamps et ce qu'il dit là, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la musique qu'on entend ?
Elle n'était absolument pas intime. Et d'ailleurs, je peux parler de cette musique comme je pourrais parler de quasiment toutes les autres. C'est que pour la première fois, je n'ai pas convoqué, disons, dans mes archives intimes et sensorielles personnelles, des musiques qui m'avaient fait naître des images, alors que c'est toujours comme ça que je travaille. Cette musique, comme toutes les autres, je les ai puisées petit à petit par le biais un peu du hasard sur Internet ou en activant des musiques, on nous met en lien avec des musiques proches, etc., etc., comme une espèce de jeu. Et je me suis abandonné aux premières sensations quand j'entendais des musiques, en me disant celle-là, elle va peut-être servir pour le film, celle-là aussi. Et au fond, je suis très peu intime de cette musique, et ça aussi explique un peu tout le processus que j'ai engagé dans ce film, c'est-à-dire essayer de se lancer avec des éléments qui n'étaient pas forcément prévus et que j'ai laissé surgir au moment où j'en avais tout d'un coup l'intuition, et du moment où cette musique a été montée, c'était l'évidence qu'elle allait ouvrir par sa douceur, par sa mélancolie et par aussi sa dimension un peu mystérieuse.
Et hyper cinématographique. Ce qui se passe, probablement que le choix procède par plein de successions de hasards, mais ce qui se passe en revanche, vous n'y êtes certainement pas étranger, c'est que d'un seul coup, je sais pas, moi ça m'a appelé, alors que ma cinéphilie est toute petite, ça m'a appelé des imaginaires de vraiment films très fictifs, grands comédiens, grande aventure, grande histoire, quoi. Grande histoire d'amour, grand cinéma.
Vous décrivez exactement ce que j'ai ressenti la première fois où je l'ai monté. J'ai vu j'ai assisté moi-même comme spectateur. C'est-à-dire, comme c'était pas prémédité, du moment où je l'ai monté sur ces images, ça a activé quelque chose qui est très proche de ce que vous décrivez et qui fait autorité. Dans ce cas-là, on s'incline.
Alors, dans ce passage, Aurélien Deschamps commence dans le montage qu'on m'a fait par dire moi, comment je me vois, comment j'avance. Et puis, très, très vite, il s'adresse à vous, regard caméra, en vous prévenant et en s'autorisant à le faire, en disant « je suis dans le flux, du coup Diego, je me permets de te dire, on est dans le flow, on est dans le flux ». Et ça, c'est quelque chose qui va revenir très souvent, le flow, le flux, comme si « quelle folie » était avant tout l'expérience de ça. Qu'est-ce que c'est qu'un flot de pensée? Qu'est-ce que c'est qu'un flux de parole?
Ce flux de pensée et ce flot de parole, c'est avant tout l'image et l'incarnation de tout ce que je vivais avec Aurélien pendant des années. C'est-à-dire que Aurélien ne s'est pas mis à parler au moment du film. Ça faisait 10-15 ans que je le connaissais au moment où j'ai engagé ce film. Et au fond, c'est un peu comme ça que je raconte notre lien, notre amitié. C'est, il est vraiment celui qui parle et moi celui qui écoute. Ce qui fait que je vous laisse imaginer la façon dont il a pu me remplir pendant des années, mais tellement me remplir que quelque chose débordait de ce flux. Et c'est vrai que c'est épuisant, certes, mais c'était pour moi aussi extrêmement stimulant, puisque dans ce flot et ce flux, il y a tout communique, tout est en lien, que ce soit ses problèmes personnels, intimes, mais qui côtoyaient aussi des grandes fulgurances philosophiques qui étaient effectivement extrêmement puissantes et qui, je pense, y ont fait pour beaucoup à ce que je tienne et ce que je sois patient et que j'ai cette patience d'écoute, parce que je pense que mon plus grand travail sur ce film, c'est l'écoute. Hein, je peux même dire que maintenant je parle en écoutant. Au fond, c'est l'écoute m'a fait parler, puisque c'est en écoutant Aurélien, en écoutant ce flux, en me posant et en surtout en décidant de le diffuser comme un médiateur vers le monde, qu'effectivement les choses se sont mises en place. Il y a eu un choix à un moment donné très très important et très décisif de faire en sorte d'engager un travail de canalisation de ce flux, parce que même si c'est quelque chose chez lui qui est quasiment inarrêtable, je pense que justement faire un film sur la parole, c'était à la fois être très décomplexé sur la quantité de paroles qu'il allait y avoir, mais aussi extrêmement rigoureux sur l'organisation de ce flux et de ce flot. C'est comment stabiliser ce qui part dans tous les sens, comment organiser un chaos. Et je dirais que c'était d'autant plus important que ce flux de pensée et de parole n'est au fond quelque chose qui a rien de pathologique. C'est simplement que c'est comme s'il usait de cette parole de façon plus exacerbée et plus intense que tout un chacun, parce que c'est quelque chose d'éminemment humain, et vraisemblablement, dans son incorporation du langage, Aurélien, il y a eu un ratage, et notamment cette complexité à canaliser cette parole. Donc, il fallait pas que je la reçoive comme un flux agressif, au contraire, il fallait que je le fasse mien, et que je le convertisse ensuite en sensation, en image, mais c'est absolument le point de départ, et c'est vraiment comment dompter ce flux, comment ne plus en avoir peur, parce qu'évidemment il est signifiant en soi, et il est aussi porteur de visions absolument magnifiques et essentielles.
Vous montrez le dispositif de domptage, entre guillemets, puisque très rapidement dans ce regard caméra, ben, vous dévoilez la caméra très très fort, l'adresse, la manière dont il vous appelle Diego, vous dévoilez votre présence absolue, votre voix qui intervient de moins en moins mais qui est là au départ, le preneur de son qui, dans ce moment musical, est dans un corps à corps vraiment physique, quasiment animal, en accrochant juste un petit micro, donc ça aussi c'est très clair, on est dans un cadre qui est le cadre de votre mise en scène, de votre écoute, Diego Governatori. Là aussi, c'est un choix qui est signifiant. Il veut dire quoi pour vous et donc pour nous? Vous nous faites quoi en faisant ça?
Je vous invite à partager ce que j'ai pu vivre les 3 ans qui ont précédé le tournage. Je vous invite au fond dans mon petit laboratoire. Je vous ouvre les portes d'une intériorité, je vous ouvre les portes, on va dire, des coulisses, parce que il me semble précisément que ce qu'il se passe à ce moment-là est absolument essentiel pour comprendre la suite. C'est-à-dire que c'est j'aurais jamais engagé ce film-là déjà si j'étais pas aussi proche d'Aurélien, et pour moi c'était fondamental, on va dire, d'ancrer, de mettre en scène ce lien. Et surtout aussi de mettre en scène tout ce qui allait faire que le film à venir était une expérimentation, une immersion consciente de ce qu'elle allait faire et pas déconnectée ou arbitraire. Je voulais absolument que l'on ressente et que l'on suive l'évolution de ce pèlerinage, alors je vais l'employer ce mot, et l'origine, le point d'origine, c'est notre voilà, c'est cette colline qui nous accueille, c'est le paysage environnant, c'est le désert tout autour, et c'est effectivement ce geste très très trivial mais ô combien signifiant du preneur de son qui va accrocher un micro à Aurélien. Et quand on sait toute la problématique d'Aurélien, de la parole et surtout de cette espèce de décomplexion difficile pour lui d'arriver à délier la parole, ce petit micro devient tout d'un coup comme un écrin qui va s'ouvrir pour libérer justement et pour diffuser tout ce qui, toute cette intériorité. La technique n'a rien de trivial pour le coup, elle est justement le moyen pour faire sortir la voix du dedans vers le dehors.
Quand vous dites que c'est une entreprise consciente, on peut même dire que vous nous laissez entendre que c'est une entreprise hyper consciente d'elle-même, puisque quand Aurélien vous dit, vous pourriez très bien couper ça à l'image, bon bah là Diego, je pars sur la question de l'humeur, donc ça veut dire que pour nous c'est très clair que précédemment vous vous êtes dit, ah peut-être tu pourrais évoquer la question de l'humeur, en tout cas on se dit ça, ou alors on se dit que c'est lui qui relance cette machine comme ça, mais ça fait référence à des discussions que vous avez pu avoir avant, donc que c'est une mise en scène plus d'une certaine manière.
Oui, parce qu'il faut dire que Aurélien a résisté beaucoup au cadre du film, non pas à libérer la parole, mais disons tout ce que je lui ai proposé. Il y a une résistance d'ailleurs qu'on sent hein, dans le film. Il comprenait pas. Il comprenait pas pourquoi on allait faire ce trajet. Il comprenait pourquoi je voulais le filmer, mais chaque lieu qu'on traversait, il ne comprenait pas pourquoi il était là. Donc forcément, ça faisait partie évidemment de la conception du film, de le mettre dans des lieux qui allait faire ressortir ses ressentis et ses sensations immédiates qu'il allait pouvoir nous transmettre. Parce qu'Aurélien a ce don-là d'hyperlucidité sur lui-même, d'arriver à expliciter dans la seconde, de façon assez assez précise et assez étonnante, ce qu'il vit au fond de lui.
Donc, ce don ou cette grande souffrance en fonction des moments.
Eh bien, c'est évidemment très ambivalent, hein, cette lucidité est très ambivalente. Elle lui offre des choses, mais elle l'entrave ici aussi sur beaucoup de choses. Mais en tous les cas, c'est certain que ce théâtre là, hein, du film en train de se faire, était vraiment pour moi une façon de filmer une tension et des discussions et un état que je vivais constamment quand je le voyais chez lui, par exemple, ou quand on en parlait. C'est-à-dire une réactivité immédiate, une hypersensibilité, une façon de, effectivement, de faire sien, de toujours faire en sorte que je me réinterroge sur ce que j'étais en train de faire.
Bonne nouvelle, non?
Absolument. Mais en même temps, donc c'est effectivement très stimulant et très moteur pour moi. Et c'est vrai que dans nos discussions avant le film, je sentais qu'il y avait cette dynamique entre nous deux qui était motrice en fait d'éléments. Et du coup, il était hors de question pour moi de pas m'intégrer au processus du film. C'est avant tout un saut que l'on fait tous les deux, une immersion que l'on fait ensemble. Et je pense que, tel un analyste, j'ai été celui grâce à qui Aurélien a pu libérer cette parole, sans que j'aie à dire, en tout cas de moins en moins dans le film. Donc tout ce processus-là, ce dispositif, c'était très important, c'était écrit comme tel, que le film se lance comme ça.
Vous parlez de ses craintes et de ses résistances à Aurélien Deschamps, et puis lui, dans ce premier extrait, il parle de point d'aveuglement. Ça me fait soudainement penser à ce qui est dit à la toute fin du film, quand il disait « Moi, en fait, j'avais peur de faire passer quelque chose de moi dans ce film, et que trop faire passer quelque chose de moi dans ce film le rende irrecevable aux yeux et au cœur des autres, et que d'une certaine manière, c'est en n'y étant pas complètement, c'est en ne me livrant pas complètement que je lui donnais la possibilité à ce film de circuler. » Et je trouve que c'est tout à la fois un aveu d'échec cuisant et ça peut être sa possible réussite.
Oui, Aurélien était hanté par sa propre intensité, était hanté par le fait que ce qu'on était en train de faire ne parlerait à personne et pire, inonderait les gens d'une intensité dont ils ne voudraient pas. Donc à la fois, il se sentait absolument pas légitime de livrer sa subjectivité, de livrer ce qu'il ressentait, n'étant personne, on va dire, socialement parlant. Mais en plus, il avait l'impression que, voilà, que ce qu'on était en train de faire allait être perçu par les autres comme du grand n'importe quoi ou comme quelque chose qui ne servirait absolument pas à faire entendre qui il était. Et c'est évidemment le point d'affrontement qu'on a eu tout du long, c'est que moi, tellement convaincu de la nécessité de faire parler Aurélien et lui tellement convaincu de ne jamais réussir à dire ce qu'il a envie de dire. Et je pense que c'est dans ce point de friction, qui est aussi mis en scène dans le film. Lui-même nous dit à nombreuses reprises, au fond, la complexité et presque l'impossibilité à dire ce qu'il a envie de dire ou ce point de départ, ce point d'accroche qui est impossible à trouver parce qu'il aurait fallu, pour le comprendre, que l'on sache ce qu'il dira ensuite et que c'est impossible. Et en fait, tout ça est une formidable mise en parole de tout ce qu'il agite et pour moi, loin d'être une menace, c'était au contraire le cœur le palpitant en fait du sujet. Et je pense que oui, il y a une anecdote par rapport à ça qui est assez, pour rebondir sur ce que vous avez dit et pour aller tout à fait dans ce sens-là. Après un an et demi de montage, quelqu'un m'interroge et me dit « Bon, alors, ça va, tu t'en sors en montage ?» Alors je réponds, puis Aurélien était à mes côtés, et cette personne s'adresse à Aurélien. Il lui dit « Alors toi, tu t'attends à quoi avec ce film ?» Et Aurélien, à ce moment-là, a exprimé l'idée que, en fait, non seulement il avait l'impression qu'on n'avait pas fini le travail, donc pour lui, ça lui semblait absurde que ce film puisse voir un jour le jour, mais plus encore que le travail n'avait même pas encore commencé. C'est-à-dire, alors qu'il m'a inondé de mots, de paroles, d'images, et il m'a offert tellement de son intériorité, et que moi, ça m'a chargé, j'ai eu 2 ans de montage pour faire ce film, lui, en parallèle, avait l'impression que le travail n'avait même pas commencé.
Moi, je trouve qu'une partie de la fin du film peut aller complètement dans son sens. Vous parlez de points de friction et de points de rencontre, on va écouter le psychiatre Jean Houry en 1990.
On parlait tout à l'heure de la conversation. Et pendant longtemps, je disais, mais en fin de compte, en quoi ça consiste le travail, comme ça? Quand on rencontre quelqu'un qui est soit schizophrène ou déprimé ou hystérique, ce que vous voulez, quoi. C'est d'essayer d'avoir maximum de possibilités, disons, de ce que je dis, d'entrer dans son paysage, d'être dans le même paysage que lui. Et d'être dans le même paysage que lui, c'est-à-dire là où se manifeste quelque chose, sans que je reste devant, comme une espèce de professeur établi, devant quelqu'un qui se présente et dit « Mais mon cher, qu'est-ce que vous avez ?» Mais d'être dans le paysage, dans le même horizonné, comme on dit. Et à ce moment-là, ce que j'appelle l'art de la conversation.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Diego Governatori.
C'était la voix de Jean Houry, grand psychiatre et psychanalyste qui est évidemment au cœur de l'expérience de la clinique de Labor, de certaines critiques de la psychiatrie et des expériences de psychanalyse institutionnelle qui parlent de la rencontre comme d'une nécessité d'être dans le même paysage, d'être en paysager, de partager des horizons. Diego Governatori, la place du paysage dans votre film « Quelle folie » est une place non négligeable, pour ne pas dire plus. Quel rapport vous avez eu avec ces montagnes, avec ces chemins, avec ces éoliennes, avec cette terre, avec cette roche, avant que vous ne descendiez dans l'arène de la Feria de Pamplune?
Oh, un rapport extrêmement, extrêmement fondamental. C'est-à-dire que pour moi, vraiment, le lieu au cinéma est une des questions les plus importantes, les plus passionnantes. La mise en scène, pour moi, n'est jamais déliée des lieux et des endroits que l'on filme. Et du coup, il m'était apparu assez évident qu'avant de rencontrer et de rentrer dans ce grand tumulte et fracas et chaos des hommes, il fallait un temps à nous, un temps de la, d'abord de l'attente et puis du déliement progressif de la parole, du cheminement. Du lent progressif cheminement vers le monde des hommes. Et c'est vrai que tout ce paysage environnant qui est pas triché pour le coup, c'est vraiment sa borde Pamplune et ses environs. Et je le traversais tous les jours pour aller là où je dormais. Et en traversant tous ces ce champ d'éoliennes, cette terre craquelée, sèche, j'avais l'impression en fait précisément de voir des images, des mots dont me parlait Aurélien, ou en tout cas je voyais Aurélien partout, je le voyais dans la roche, je le voyais dans ces éoliennes qui tournaient, je le voyais dans ce soleil, je ressentais en fait d'un point de vue sensitif quelque chose de très fort, quelque chose de très accueillant aussi, alors que ça peut paraître effectivement assez assez dur et aride comme environnement. Au contraire, je me suis senti comme ça, je me suis lové dans le sein de la nature et qui m'a accompagné vraiment c'est une mise au monde, donc au fond c'était la nature, bon c'est bateau, mais la nature sage-femme, hein, vraiment qui permet de faire en sorte de d'accueillir l'enfant. Et je pense que la nature nous a accueillis dans ces terres et a fait en sorte ensuite d'être toujours présente, évidemment de point de vue signifiant, mais aussi dans le cadre qu'elle propose. C'est une nature riche, c'est une nature incarnée, c'est une nature dans laquelle il faisait bon cheminer.
Et que vous amplifiez, c'est-à-dire à la fois dans le cadrage, à la fois dans la... Parce que vous êtes, on l'entendait tout à l'heure, mais vous êtes à la caméra, donc vous l'amplifiez dans la manière dont vous la filmez, et vous l'amplifiez ensuite dans tout le travail sonore, où elle est plus que signifiante, elle devient vraiment, elle devient un personnage, quoi. Elle a une voix, elle a des sons, elle a quelque chose de qui je parlais d'un duel entre vous et Aurélien Deschamps. Moi, c'est presque un trio pour que ça prenne vraiment corps. Tout ce travail-là de post-production va dans le sens de ce qu'on entendait tout à l'heure dans la parole d'Aurélien Deschamps, c'est-à-dire une sorte de parole solide, une parole spatialisée, des points d'aveuglement, des reflets, etc. Comme si le film vous permettait, Diego Governatori, de chercher une traduction à l'image et en son de ce que cherche à traduire de sa propre expérience du langage et des sons Aurélien Deschamps.
Oui, bah c'est absolument ça. Je voulais vraiment protéger le film, on va dire, d'un excès de cérébralité. Et j'ai voulu très vite engager un travail de conversion ou de transformation de cette parole en image et en sensation. Et c'est vraiment là-dessus que s'est bâti tout le travail d'écriture et de conception du film. Parce que souvent on me dit, mais alors pourquoi Pamplune, pourquoi ce trajet? C'était pour moi vraiment comme un laboratoire au fond, dans lequel j'allais nous immerger, vraiment laboratoire au sens presque de la chimie. C'était vraiment faire en sorte d'une expérience quasi chimique où, en nous plongeant là-dedans, quelque chose d'Aurélien allait se révéler.
Mais de vous dites nous.
Certes, ou de notre... Oui, après, Aurélien est un effet, a forcément un effet miroir sur moi-même, mais par rapport à moi, c'est moi, je fais, on va dire, parler le film, parler Aurélien. Après, ce qui peut se déduire de qui je suis, je laisse peut-être du temps un peu passer parce que l'expérience est encore assez fraîche. Mais toujours est-il qu'il y avait vraiment l'idée, effectivement, de traduire en images, en son et en montage tout ce qui pouvait, au fond, évoquer le lien qu'entretient Aurélien avec le monde, avec les autres, avec ses difficultés de rentrer dans les cercles sociaux, professionnels, culturels, qui avait vraiment que ça puisse que le spectateur puisse au fond ressentir vraiment ce qu'il vivait, afin d'avoir aussi un œil aiguisé sur sa solitude, comment un homme seul et qui parle de sa solitude lorsqu'il parle au milieu de tant de gens, la façon de que ça peut avoir de faire rebondir toutes ces sensations à la fois de solitude, la violence stigmatisée aussi chez Aurélien, et du coup il y a eu vraiment l'idée de m'emparer du cinéma comme révélateur, comme un peu un alchimiste transformerait une matière, un minerai en or, essayer de faire en sorte que toute cette parole puisse, par le biais de la technique cinématographique, puisse prendre une allure voilà, plus incarnée et être vraiment loin de toute cérébralité.
On entendait le psychiatre Jean Houry aussi parce que Aurélien Deschamps n'a de cesse de dire l'expérience autistique, c'est ça, l'autisme, c'est ça, de ne pas tant parler que de lui, ce qu'il fait, mais aussi d'essayer de produire des généralités. Ce qui, évidemment, quand on connaît un peu la complexité et l'infinité des nuances du spectre autistique, peut évidemment parfois nous mettre hyper mal à l'aise en se disant étrange de filmer ce corps parlant qui voudrait comme incarner toute cette question autistique, compliquée, voire pas possible, voire, comment on pourrait dire, contre-productif. Comment est-ce que vous avez géré ça, le fait que dans sa parole, il dise ce genre de phrase très générale?
Alors, je dois préciser que deux semaines avant le tournage, alors que ça faisait presque deux ans qu'on préparait le film, Aurélien m'a dit, mais tu sais, Diego, je vais pas dire « je », hein, moi. Je vais pas dire « je », hein. Ça, c'est... je vais parler d'autisme et on va bien comprendre que j'en fais partie, mais je n'ai ni prix Nobel ni palme d'or, donc moi, ma subjectivité et ma parole... D'ailleurs, je n'ai pas une parole. Ma parole est un animal qui m'échappe, intérieur, qui m'échappe, donc je ne livrerai pas ce jeu. Ce qui, je vous laisse imaginer, a été une sorte de d'énième déflagration, mais de laquelle j'ai essayé de faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il était impossible de forcer Aurélien justement à le ramener vers le jeu, puisque c'est la grande question dans l'autisme, hein, c'est le soi, où est-il, hein, comment se saisir, donc c'était évidemment très significatif, et en même temps, bon, Aurélien s'est quand même abandonné, et puis les choix de montage ont fait en sorte que j'ai quand même la sensation qu'au final, ce jeu jaillit précisément. Ensuite, l'autre question qui est assez intéressante par rapport à l'autisme, c'est que justement pour essayer de faire en sorte qu'il puisse assumer aussi cette position là, je lui ai parlé d'une chose, je lui ai dit qu'au fond j'aurais bien aimé qu'il soit à la fois le guide et le monument, c'est-à-dire à la fois celui qui allait nous faire visiter ce pays autistique, tout en faisant partie. Donc ça, c'est quelque chose qui lui a énormément parlé, faire en sorte qu'il allait être celui à la fois le sujet et celui qui allait commenter tous les dysfonctionnements que lui-même ressent. Je pense que c'était évidemment l'enjeu du film, hein, faire en sorte qu'Aurélien traque cette parole et réussisse à mettre des mots. Après, là où je vous rejoins, c'est qu'il y a une chose assez troublante, c'est que justement, quand l'autisme, eh bien, c'est l'insaisissabilité de soi-même, c'est l'instabilité, c'est la fragmentation, c'est l'émiettement.
Moi, je sais pas ce que c'est, hein.
Ben, c'est tout ça à la fois, c'est un psychisme qui précisément ne se réduit pas à un corps, un psychisme qui ne se réduit pas à quelque chose d'unifié. C'est vraiment le comment retrouver, enfin, quand on est autiste, le grand travail, c'est de réussir à canaliser tout cet émiettement, puisque l'autiste est vraiment plongé dans le grand bain des sensations, mais un grand bain de sensations qui fait référence non pas au bain de sensations de Pamplune, mais au bain de sensations archaïque, hein, c'est-à-dire celui dans lequel on a tous été plongés à la naissance. Ce monde-là, cet antémonde dont parle Aurélien, quand il parle d'autisme, il parle d'antémonde pré-symbolique, avant le langage, celui qu'on a tous vécu, tous traversé, mais qu'on a oublié, puisqu'effectivement, on s'est tous construits avec le langage, avec les codes sociaux, les codifications. Et c'est comme ça qu'au fond, le monde est monde et que le social est social. Mais il faut bien imaginer que Aurélien et justement, c'est ça qu'il perçoit et c'est ça qui l'intéresse diablement dans cet exercice de mettre des mots sur son autisme, c'est de réussir à nous offrir aussi un miroir extrêmement, bon, très complexe, mais très signifiant. Et de nous faire revivre par le biais de ce qu'il vit lui-même, ce que l'on a vécu dans ce cosmos au fond où ce chaos de la naissance, ce magma de la naissance que nous avons traversé. Et alors, comment saisir l'insaisissable? C'était tout l'enjeu du film, et je pense que Aurélien s'y attelle, et je pense qu'il fait en tout cas tous les efforts pour réussir à saisir cette chose-là. Et moi, ça a été effectivement tout mon travail, c'est comment stabiliser ce qui ne peut pas être stabilisé, comment saisir ce qui est fragmenté, ce qui est extrêmement compliqué à unifier.
Et puis vous quittez la montagne et la forêt et les hauteurs de Pamplune pour descendre dans la ville où la fête bat bientôt son plein, où des personnes sont en blanc et en rouge, bientôt dégoulinant de sangria et d'autres boissons, vont aussi bientôt chercher le taureau. Dans votre déambulation urbaine, Aurélien et vous rencontrez un homme.
I feel sorry for you. I feel happy for this guy and this guy, because they know shit.
Je me sens mal pour toi. Par contre, eux, je les envie. Ils font des trucs.
You're selling shit.
Toi, t'es un acteur. Tu vends de la merde. Bon, moi aussi, peut-être.
I am really a writer.
Pourquoi, t'es acteur? Non, je suis écrivain. Un vrai écrivain. Comme Voltaire.
Oscar Wilde. Okay. James
Pardon.
Joyce. Me. No
problem. Oscar Wilde, James Joyce, moi. Aucun problème. Charles Bukowski, moi. Ok, William Faulkner. Ouais, pas de problème. Mais toi, tu joues. Moi, non, je suis réel. C'est ça la putain de différence. Non, je joue pas. Si, tu joues, putain. Non, j'essaie juste de me reconnecter avec moi-même. Le projet, c'est pas de jouer, mais d'exister. Et c'est difficile. Mais là, t'existes pas, tu joues. J'essaye. Sois toi-même, mec. Oui, mais c'est compliqué. Tu as peut-être besoin d'une bière. J'ai pas de problème avec toi. Tu joues même pas, t'es nulle part, putain. T'es pas là. Désolé, t'es pas là. C'est très difficile d'exister. Sois toi-même, ouvre ton putain de cœur. T'es pas là, tu te caches, putain. Tu te caches. Toi, par contre, t'es bien là.
Your arms are folded, therefore you're in a...
Je suis désolé, tu as les bras repliés, donc tu te protèges. C'est de la psycho de base. Pourquoi? Je t'attaque pas, je voudrais juste que tu tournes. Ouvre tes bras. Je fais ce que je veux avec mes bras. Bien sûr, mais tu es sur la défensive parce que tu es quelqu'un d'intelligent. Je veux pas t'agresser, je veux t'aider, merde.
C'est une scène surréaliste qui arrive à peu près à 38 minutes du film Diego Governatori, que double ici Romain de Bec de Lièvre. Vous filmez cet homme-là, principalement, et le reflet d'Aurélien Deschamps dans les lunettes de cet homme qui lui dit « t'es pas là, t'es nulle part, tu joues même pas ». Et en fait, ça arrive à un moment du film où la question se pose. C'est ça qui est magique dans le montage. Ça arrive à un moment du film où on se dit « à quoi ils sont en train de jouer ?» Ou « est-ce qu'ils sont en train de jouer ?» Ou quelle est exactement la valeur de cette parole? Sachant qu'à aucun moment, on sait qu'Aurélien Deschamps n'est comédien. À aucun moment, ça nous est dit. Moi, je l'ai découvert sur Wikipédia. Alors, du coup, je me dis, déjà, épiphanie de cette rencontre. Mmh. Et d'autre part, signification du montage, Diego Governatori.
Waouh. Alors déjà, je précise quelque chose. Alors Aurélien a une formation de comédien. Il a fait du théâtre, mais il y a une quinzaine d'années, il a coupé complètement avec ça. Et en aucun cas, en tout cas dans le film, il réciterait une partition. Je dis ça parce que c'est une question qu'on m'a un jour posée. On m'a dit,
c'est
mais...
que ça se pose.
Oui, oui. Mais alors, il a mis du temps à apprendre son texte. Voilà. Et tout ce qui a ensuite engagé la discussion entre cette personne et moi. Et évidemment que tout ça est absolument spontané. Que c'est un documentaire au sens où s'il y a des choses qui sont envisagées et des choses qui sont préparées, la façon dont la parole jaillit, eh bien, on en est les premiers spectateurs. Donc, il faut l'accueillir telle qu'elle vient et naviguer avec. Ça, c'est une chose par rapport à la rencontre dont vous faites l'allusion. Bon, c'est un miracle hein, de tournage. J'en parle pas avec une connotation forcément qualitative, mais miracle au sens où je sais que le soir même j'ai foncé chez moi pour être bien sûr d'avoir enregistré ces images tellement j'avais l'impression que cet homme avait surgi de nulle part.
Un peu sous en tout cas.
Vraisemblablement, mais en fait, est-ce que Terence Stamp est sous quand il débarque dans Théorème? Je ne sais pas. Est-ce que le Christ était sous quand il arrive sur la Terre? Sous, c'est-à-dire, ou en tout cas, sûr. Sûr de lui.
Peut-être sûr.
Plus sûr de lui que sous. Parce que, en fait, il y a une telle acuité à ce moment-là, chez lui. C'est comme s'il avait tout compris. Tout compris de ce qu'on faisait. Tout compris de la complicité de ce qu'est en train de vivre Aurélien. Et que, comme il le dit à la fin, il lui dit, je ne veux pas t'agresser, je veux juste t'aider. Alors qu'il lui a dit des monstruosités. Et il lui a dit ces monstruosités qu'au fond Aurélien entend presque tous les jours hein, sur comment on considère la différence, la typie, la marginalité. Ça, Aurélien a pu l'entendre. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand je faisais résonner pour moi cette rencontre, m'est apparue assez vite l'idée que dans le « soi toi-même », qui peut paraître donc dans un premier temps agressif et aberrant, il y a quelque chose, je pense, d'absolument fondamental dans toute la problématique du film et dans toute la problématique d'Aurélien. Et c'est quelque chose, au final, auquel je souscrirai assez et que j'essaye, même aussi dans le film, de dire à Aurélien, mais au fond, ne vaut-il pas mieux essayer d'exploiter ce que tu as en toi, alors qui est effectivement atypique, intense, exalté, explosif, mais c'est ta matière à toi, c'est ton monde à toi, c'est ta façon de voir les choses, et je pense que on ne sera jamais aussi content que lorsqu'on va toucher en fait l'essence même de ton témoignage, et pas quand on va se rendre compte que tu veux essayer de te conformer à quelque chose, à un discours bien établi. Et même dans les travaux d'Aurélien, je sais qu'il a fait des choses où il est complètement lui-même et c'est assez extraordinaire. Et d'autres où, peut-être trop obnubilé par l'idée de justement de faire comme les autres. Au fond, il se perd dans un certain conformisme. Donc au fond, c'est cet homme qu'on croise comme un espèce de diable ou de dieu, sûrement les deux, est venu nous mettre sur la voie au fond de quelque chose d'extrêmement extrêmement puissant, alors qu'il est douloureux. Hein. C'est vraiment pour moi l'incarnation de l'incision du chirurgien. Cet homme-là, c'est le scalpel qui ouvre la peau, non pas pour agresser, mais au contraire pour aller guérir à l'intérieur. Et cette guérison n'est possible que si on incise, que si on fait couler du sang. Et je pense que cette séquence, elle a ce rôle-là, elle est centrale. Donc aussi pour répondre à votre question, elle vient à un moment donné où effectivement je veux couper court à notre allègre promenade sous les ciels bleus de Navarre pour dire en fait ce qui se trame au fond et qui va se dramatiser de plus en plus. Ce qui se trame, c'est grave, et en même temps c'est plus c'est grave, plus l'intensité d'Aurélien va nous parler. Donc c'est vraiment comme ça un espèce de point de jonction où c'est peut-être l'altérité la plus, à part moi, mais la plus longue dans le film, parce que sinon il y a que des brèves rencontres. Et c'est une image, effectivement, du social qui surgit et qui se dresse face à Aurélien, à la fois comme un obstacle, mais aussi comme un tremplin.
Il y a une autre hypothèse de lecture qui serait de dire, en fait, ce verbe, en fait, ce flux de parole est un endroit du nulle part, est un endroit de protection, est un endroit de frontière, et que toi, chez toi-même, tu n'y es jamais. Et que, en te filmant, en train de parler, essayant de nous dire quelle est ton expérience du dedans, en réalité, c'est une entreprise vaine et vouée à l'échec, nous n'y serons jamais. C'est aussi cette mise en garde qu'il nous fait, cet homme-là.
Certes, mais alors ça, Aurélien ne le sait que trop bien. Alors, il y a peut-être que moi, pour précisément être tout à fait bloqué dans ce fameux point d'aveuglement dont parle Aurélien au début. Aurélien ne le sait que trop bien. Après, par rapport à cette question, il y a une chose intéressante, c'est qu'au fond, le film se termine avec l'évocation d'Aurélien du doigt et de la lune. C'est-à-dire, l'idiot est celui qui regarde le doigt et non la lune. Et ce que nous dit Aurélien, c'est en fait, allons plus loin, faisons plus que regarder le doigt. Au fond, regardons l'homme, le seul et le vrai spectacle, c'est l'homme. J'ai envie de dire, c'est étonnant de la part précisément d'un homme qui refuse d'être regardé et entendu au début du film. Donc je pense que par rapport à cette question-là, le film a un trajet et je pense qu'il y a le déploiement d'un fil presque narratif qui serait au fond l'histoire d'un homme qui refuse d'être regardé et entendu et qui finit au fond par nous tendre le miroir pour nous regarder, mais aussi pour faire en sorte qu'il y ait aussi son propre visage dans ce miroir qui nous servent aussi à nous et de nous inviter tous, au fond, à bien sûr à nous réinterroger en tant qu'homme, en tant que homme social, en tant que pris dans le flot culturel contingent que nous sommes. Regardez depuis l'extérieur, l'homme n'est que structure, et
donc s'il y a une trajectoire, ça pourrait être aussi celle qui va depuis l'écoute dont vous parliez Diego Governatori en début, vers le regard, parce qu'il y a aussi un effet de montage qui est à la fin d'un moment de flux de pensée et de parole. Plan de coupe, il y a des corps complètement avachis, bourrés, qui dorment au sol comme s'ils avaient été étourdis et abattus justement de tant de mots, de tant de langage. Et juste après, il y a cette question du regard. Comme si finalement, on quittait la fascination du discours, son éventuelle illusion, pour arriver à un face-à-face qui soit autre et dégagé du langage, qui est aussi un piège. Parce que c'est aussi un film qui nous dit qu'il y a de quoi se perdre quand même. Il y a vraiment de quoi se perdre dans le langage, quoi.
Vous aviez pas remarqué?
Ça va, on travaille tous les jours avec cet outil-là et donc de temps en temps on se rend compte qu'il y a de quoi se perdre.
Bah, langage t'engage, comme disait Michel Léris. C'est là, on n'a pas tout dit, mais enfin c'est tellement beau, c'est tellement puissant, effectivement. En quoi le langage t'engage dans la vie et dans le lien avec les autres, et en quoi le langage nous fait tanguer?
Pourquoi j'ai écrit ce livre qui porte ce titre un peu bizarre? Histoire de la folie, pourquoi je l'ai écrit? Essentiellement parce que j'ai pas pu arriver à en écrire un autre livre. Un autre livre qui, lui, me faisait rudement envie. Et qui aurait été l'histoire des fous. C'est-à-dire l'histoire réelle de cette population qui, si on la prend, si vous voulez, à partir du XVIIe siècle, n'a pas cessé de vivre, d'exister, de vivre, de se développer dans les marges de notre société. Et donc, au fond, on ne sait rien. On sait simplement de quelle manière cette population a été captée, de quelle manière elle a été quadrillée, classée par les médecins. On sait ce que les médecins en ont fait, sous quelle rubrique ils les ont mis, quels traitements, éventuellement quelles punitions ils leur ont imposées. Mais au fond, ce qu'ils étaient, ce qu'ils disaient, ce qu'a été ce grouillement, si vous voulez, c'est ça que j'aurais voulu faire et c'est ça que j'ai pas pu faire. Et je ne peux pas plus faire tout simplement parce que c'est un grouillement qui est passé sans trace. C'est des cris qui n'ont laissé derrière eux aucune mémoire, aucun souvenir. Je n'ai pu retrouver que le moule creux, en quelque sorte, dans lequel on les a mis. Mais eux-mêmes, la folie, les fous dans leur existence positive, réelle, historique, je n'ai pas pu le faire. Si bien que j'ai été amené à faire ce que j'ai appelé l'histoire de la folie, c'est-à-dire l'histoire de la limite, de la surface de contact entre cette population dont je n'arrivais pas à faire l'histoire et puis la population, le savoir, la culture institutionnelle, visible, manifeste, qui est celle de notre société. Alors cette surface de contact entre la société officielle, institutionnelle, normale, et puis ce groupe, ce fourmillement de gens d'en dessous. C'est ça que j'ai appelé la folie, j'ai voulu faire l'histoire de cette surface de contact.
L'histoire d'une surface de contact sous-jacente à l'histoire de la folie de Michel Foucault. Il est ici au micro de France Culture dans les matinées en 1972. Quelle folie! Le titre de votre film, Diego Governatore, ne comporte aucune ponctuation. Donc, ce peut être tout à fait un point d'interrogation. Ça peut être un point. Ça peut être un point d'exclamation. Ça peut être trois points de suspension. Sont des mots que prononce Aurélien Deschamps à plusieurs reprises. Souvent comme pour lui-même, souvent peu adressé à la caméra ou à vous, souvent comme une manière de, pour le coup, de se dire quelque chose à lui-même du parcours, de ce qu'il est en train de nous dire. Comment l'avez-vous choisi, ce mot-là? Ce titre.
Je pense qu'il y a un élément de réponse dans ce que vous avez dit, hein. Cette phrase, c'est un peu comme l'égérie d'Aurélien, elle l'accompagne, elle l'aide, je pense, à stopper le flux à un moment donné, hein, faire en sorte qu'il pourrait continuer à s'étonner du monde, il pourrait s'étonner, continuer à chercher ses mots, et qu'à un moment donné, c'est l'histoire sans fin, hein, ce flux c'est sans fin, elle vient comme un espèce de couperet, tout d'un coup l'interrompre et le ramener, je pense, lui-même à une sorte de conscience du moment, pour le réorienter dans le moment qu'il est en train de vivre.
C'est sa propre scansion, en fait.
J'ai l'impression. Ouais, c'est, parlons pas de tic de langage, mais je pense que c'est vraiment une phrase qui l'accompagne et qui, comme vous l'avez dit, est souvent murmurée. Elle est davantage, oui, annonnée que exclamée. Et je pense que derrière ça, évidemment, au-delà de la question de la folie, je pense que ce qu'il y a de plus palpable, c'est la sidération à laquelle cette phrase renvoie. La sidération, au fond, d'être le témoin de tout ce que lui-même vit. Et je pense qu'à ce moment-là, il est son propre témoin. C'est comme si, en fait, il, en parlant beaucoup, lui-même était le propre auditeur de sa propre pensée. Il parle souvent aussi à voix haute. Donc il est aussi dans ce flux-là de paroles et d'écoute de lui-même. Et je pense que cette phrase, elle lui appartient et elle lui appartient pas vraiment, en fait. C'est comme une aide qui vient de l'extérieur. Et que je pense que c'est vraiment sous cette étoile-là que j'ai voulu baptiser mon film. C'est-à-dire que, oui, quelle folie, quelle sidération de voir le monde des humains d'un point de vue extérieur. Et c'est vraiment le cadeau que nous offre Aurélien, hein, en nous encourageant à faire ce pas de côté pour tout d'un coup essayer de voir et de saisir cette activité incessante des hommes, pris dans le langage, pris dans les systèmes d'évidence, pris dans les systèmes symboliques, et qui suffit au fond de se mettre un peu à distance de ce grand chaos et ce grand fracas pour comprendre au fond toute la relativité des systèmes dans lesquels on est pris. Mais précisément, si on est pris, ça veut dire que nous-mêmes sommes acteurs de tous ces rouages chaotiques.
Et quand on n'est pas pris, c'est aussi très difficile.
Et quand on n'est pas pris, on a cette lucidité et cette clairvoyance, mais on ne participe pas à la fête.
Quelle folie, c'est aussi, comme vous le dites, Diego Governatore, quelque chose qui parle du monde extérieur, donc éventuellement du regard posé sur Aurélien Deschamps, ou sur, pour reprendre les mots de Michel Foucault, quelque chose de la marginalité. Dans la métaphore que vous filez dans Quelle folie, il y a le taureau, il y a la reine, il y a la course, la peur et l'excitation de cet animal qui est lancé dans la foule. Il y a aussi l'idée... Je crois pas qu'il y ait de mise à mort dans ce moment-là. Et je pense que c'est important de le préciser, parce que vous faites d'Aurélien, évidemment, cet animal. Mais il ne meurt pas.
Non. Bon, il y a plusieurs choses, hein. Je pense que, avant tout, et c'est ce que je comprends petit à petit, il y a le souvenir, pas traumatisant, mais extrêmement fort, puisque j'ai grandi pas loin de Pamplune, en France, du côté français. Mais j'ai grandi pas loin de Pamplune, et je pense qu'enfant, je voyais chaque année, en fait, ce rituel à la télé, et c'est des images qui m'ont hanté depuis tout petit. Et en fait, ces images, de voir tous ces gens courir près des taureaux lancés ventre à terre dans les ruelles de la ville, c'est une image à la fois de la... Tout d'un coup, le plaisir et l'adrénaline côtoient le danger, la mort. Et dans un psychisme d'enfant, ça n'est pas conciliable. Il y a une espèce de bug cognitif qui fait que, moi, enfant, je ce sont des images qui m'ont fasciné, mais que je n'ai pas comprises. Donc, qui m'ont beaucoup accompagné plus tard, qui continuent effectivement. Alors, moins depuis le film, parce que ça a été une façon de, justement, de...
Le déposer.
De, voilà, tout à fait. Et en parallèle de tout ce que me racontait Aurélien, il y avait beaucoup de choses qui faisaient référence à cette animalité. Déjà, il disait, en parlant de sa parole, qu'elle était comme un animal qui le traversait. Il y avait l'idée aussi que Aurélien se sent assassiné par le social tous les jours. Donc c'est une parole, ou en tout cas une personnalité, qui est stigmatisée comme étant potentiellement violente, alors qu'au fond il n'a jamais fait et été coupable d'aucun acte répréhensible.
À l'inverse, il dit que on lui fait violence, qu'il faut acter cette violence et qu'il y a des trajectoires, la sienne éventuellement fragilisée ou d'autres qui ne sont jamais redressées, pour reprendre ses mots, et qui se scratchent. Il tient à dire ça. Il tient vraiment à un moment donné à dire on se réveille, on n'est pas en train de regarder quelque chose qui nous fascine et qu'on trouve beau et qu'on trouve inventif. On est en train aussi de regarder des gens dont la vie s'écroule.
Oui, oui. Alors il le dirait autrement aujourd'hui. Hein, je suis fidèle à ce qu'il dit lorsqu'il m'accompagne avec moi en débat. Souvent on lui pose cette question. Il dit que vraisemblablement il était quand même sous le coup effectivement, à la fois du contexte dans lequel ces mots ont été dits, et en même temps, justement, quand, comme il le dit, on n'a pas accès à ses fonctions premières, qui est dormir, se nourrir, aimer, être en lien avec les autres, il y a une violence. Et on lui parle donc voilà de handicap, hein, et il le souligne trois fois. Il met très loin cette idée un peu poétique et romantique de l'autiste poète qui pourrait composer des choses formidables sur son continent. Non, lui, il parle de cette solitude parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, ça n'est pas opérant. Donc je pense que ça c'est une parole très forte et très tragique. Mais comme il le dit, notre civilisation n'aime plus le tragique. Donc faut-il lui rappeler que à des endroits, la précarité, les gens qui sont stigmatisés, qui sont mis au banc de la société, ce qu'ils vivent est tragique, et il faut le dire pour pouvoir intervenir.
Quelle folie, c'est le titre de ce film. Il sort le 9 octobre en salle. Vous parliez des rencontres, et eh bien elles auront lieu par exemple à Paris, à Marseille, à Pantin, à Fontenay-sous-Bois, à Montreuil. Il est déjà visible au cinéma Le Méliès, et puis il y aura d'autres rencontres à venir. Merci beaucoup.
Merci. Merci beaucoup.
Tu es comme ces poètes de 7 ans qui se meuvent dans les cimes brûlantes sans jamais se blesser, observent les décorations, s'approprient des sapins immenses, illuminés. Oh, laissez-moi danser. Ils prennent la tangente. Ils regardent le fleuve.
Sans jamais préjuger du ressort des vagues.
Qui es-tu? Qui es-tu? Qui oses-tu défier?
À la prise de son ce soir, c'était Valérie Lavalard. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Romain de Bec de Lièvre, Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Lucie Riandet. C'est aussi une page sur franceculture.fr, Par les temps qui courent, et un podcast via l'appli Radio France. Dans un instant, le journal de 22h. Très belle soirée sur France Culture.
Contre l'époque.
Préjugés du ressort.
verticalité, j'adhère à ton apesanteur.
La nuit mange la cité. Tout